Celtic Yogan 2. Baby Dream MHD Tiki Yogan Tiki Yogan 2. Abutal.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la paix pour cette édition de la mi-journée. En titre de ce 12h, nous parlerons de dialogue paix sécurité. La Fondation Frédéric Herbert envisage des solutions sur les questions transversales relatives à la consolidation de l'état de droit et du dialogue socio-sécuritaire à travers un atelier tenu récemment à Ferkessédougou. Et puis à Bouna, l'ONG Génération Femmes du troisième millénaire chargée d'implémenter le projet des AVEC dans la région depuis 2022 fait il y a peu un bilan à mi-parcours. Les détails avec notre correspondant dans le Bounkani. Au Niger, 6 soldats ont été tués dans des combats avec des terroristes près de la frontière du Burkina Faso. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis, le professeur Bamba Abdoulaye est aujourd'hui l'invité de la rédaction. Il évoquera la situation au Proche-Orient, notamment la reprise depuis plus d'une semaine des affrontements entre Israël et le Hamas. Ça sera en fin d'édition avec Marthe Kakou. Voilà pour le sommaire. Dans le cadre du programme Dialogue, Paix, Société, Sécurité, initié par la Fondation Frédéric Herbert pour aborder toutes les questions transversales relatives à la consolidation de l'état de droit et du dialogue socio-sécuritaire, un séminaire a eu lieu récemment à Ferkessédougou autour du thème « Les rapports entre les populations et les forces de défense et de sécurité ». 3 jours durant, les autorités préfectorales, élus politiques et autres leaders communautaires de la cité du Tchologo se sont réunis à la salle de conférence de la Maison des retraités pour envisager des solutions en réponse au thème du séminaire. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Une meilleure sécurité ne peut se construire que s'il y a un cadre d'échange permanent entre les autorités, les forces de défense et les populations. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la région du Tchologo selon Karamoko Diakité, conseiller politique à la Fondation Friedrich Ebert.
Le constat que nous faisons, c'est que le véritable problème est lié à un problème de communication. On ne se parle pas, les informations ne sont pas partagées comme il se doit et il n'y a pas de canal, il n'y a pas d'espace pour permettre aux gens d'échanger et de poser leurs problèmes.
Ce séminaire est donc la plateforme qui offre ce cadre d'échange et de partage. En témoignent ces propos de l'honorable Kone Lassina Cardozi, député de Ferkessédougou commune et président de la commission défense et sécurité du Parlement ivoirien.
Les problèmes de sécurité dans la région actuellement au niveau de la frontière du Tchologo est important. Et donc il était bon qu'on ait eu cette rencontre avec des personnes cibles de la population qui puissent écouter, qui puissent aussi transmettre aux autres populations pour que tout le monde soit imprégné et que tout le monde puisse s'informer et être comme des acteurs pour des problèmes de sécurité dans notre région.
Justement au niveau des frontières, il précise.
La meilleure formule, c'est qu'on puisse avoir une très bonne sensibilisation et que les populations soient largement informées pour qu'ils sachent ce qui se passe. Que si la population sait ce qui se passe et qu'elle-même est impliquée dans ce qui se passe avec nos frères réfugiés, il y aura un apaisement.
Un apaisement pour lequel les élus, les autorités administratives et coutumières, les guides religieux sont prêts à s'investir, a-t-il ajouté. De retour de Ferkessédougou, Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Rendons-nous à Yamoussoukro, où la ville abrite depuis hier lundi un colloque international sur l'oufouettisme. Cette rencontre scientifique initiée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix enregistre la participation de plus d'une centaine d'éminents chercheurs venus de 5 pays d'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et des universités de Côte d'Ivoire qui échangeront jusqu'à demain mercredi. On fait le point avec vous, Emiliao.
Sur les enjeux de ces assises, professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à l'ouverture des travaux.
Il s'agira, 3 jours durant, de faire avancer la réflexion scientifique et de dégager le contenu philosophique et politique de l'oufouettisme. L'oufouettisme est-il d'actualité? Fournit-il les instruments d'opération sur les réalités de notre société dans sa configuration d'aujourd'hui. C'est sur toutes ces questions que vous êtes conviés à une réflexion ouverte et approfondie.
Des réflexions scientifiques sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny à l'effet de produire des actes qui feront l'objet de publications, indique professeur Niamke Kofi, président du comité scientifique.
Nous avons reparti les thématiques en 5 axes avec des sous-thèmes que chacun des chercheurs va exposer et sur lesquels des débats vont s'instaurer. L'objectif de faire de Félix Houphouët-Boigny un patrimoine intellectuel ivoirien et africain.
Le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Koulibaly Gando, a au nom du chef de l'État remercié les initiateurs et participants de ce colloque.
Si nous contentons de parler du fouet de poignée dans les rues, dans les maquis, sans donner un contenu scientifique, évidemment ce concept va disparaître un jour, n'a pas de lendemain. Donc lui donner un contenu scientifique assure, n'est-ce pas, sa pérennité.
L'organisation de ce colloque international sur le fouettisme s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la disparition du président Félix Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de la fondation qui porte son nom. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et nous restons avec vous, Émile Yao, puisqu'au terme de l'ouverture de ces assises, certains participants étrangers se sont exprimés sur leur choix de prendre part aux travaux, mais également sur leurs attentes. On les écoute.
Mokam David de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. En tant qu'universitaire, lorsque la vie d'un acteur de premier plan, d'un acteur important comme Félix Houphouët-Boigny est mise en étude, je ne peux pas, n'est-ce pas, résister à l'appel parce qu'il a marqué le continent sur le plan de la lutte pour l'émancipation de l'Afrique et surtout sa façon de faire qui voudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, ne pas gâcher les vies humaines. C'est très important. Donc sa recherche de la paix, c'est un élément qui m'a beaucoup marqué.
Moi, je suis Alexander Kies, professeur de l'Université de Genève en Suisse. Je suis historien et spécialiste de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Entre autres choses, je travaille sur l'histoire du travail forcé colonial. Et là, évidemment, à ce moment-là, le futur président Houphouët-Boigny, c'est un protagoniste principal. C'est lui qui est l'architecte de la loi qui est responsable pour l'abolition du travail forcé en Afrique occidentale française. Donc, et moi, comme historien, je suis lié à la question du houphouétisme.
Alors, justement, qu'est-ce que vous attendez de ce colloque?
Bien, pour l'instant, c'est voir d'abord les échanges, évidemment, avec d'autres historiens, mais encore plus pour voir comment la mémoire, notamment de ces questions et de l'importance de Félix Houphouët-Boigny pour cette abolition, existe encore dans la mémoire, parce que c'est quand même le travail contraint, c'est un problème dans le monde, même qui reste, pas comme dans la période coloniale, évidemment, mais c'est une mémoire qui ne doit pas disparaître.
Merci à vous, Émile Yao. Autre sujet dans cette édition, c'est avec le ministère de la Communication et de l'Économie numérique qui entend outiller les directeurs des services informatiques des différents ministères afin qu'ils puissent relever les défis actuels et futurs de la digitalisation. À cet effet, un atelier sous le thème « Zéro papier d'ici 2030 » a été organisé récemment à Abidjan qui vise à assurer une collaboration plus étroite entre les différents directeurs des services informatiques des entités gouvernementales. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture le vendredi dernier avec Mata Touré.
Il s'agissait surtout de renforcer la synergie entre le Comité national de digitalisation, le CNDGIT, et les directeurs des services d'information des administrations publiques en formalisant un cadre de collaboration entre Patrice Soumy et le directeur du système d'information au ministère de la Communication.
On attend d'eux déjà une grande implication. L'avantage aujourd'hui est de pouvoir suivre une feuille de route coordonnées à travers la stratégie qui a été établie jusqu'à l'horizon 2025, de pouvoir faire une économie des ressources.
L'atelier a été ouvert par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique qui a profité de l'occasion pour rappeler le caractère incontournable de la transformation numérique pour toute l'administration, Amadou Koulibaly.
Pour que ces plans se concrétisent et que la transformation numérique devienne une réalité, il est important que les ressources humaines chargées de les mettre en œuvre travaillent en étroite collaboration. Les directeurs des systèmes d'information qui sont en première ligne doivent être mobilisés, sensibilisés et même formés quand cela est nécessaire.
On rappelle que le CNDGIT a pour mission de définir les orientations stratégiques pour la transmission numérique du secteur public.
Prenons la direction du nord-est ivoirien, précisément à Bouna, où l'ONG GFM3, entendez Génération Femmes du 3e millénaire, installée depuis octobre 2022 dans la région du Bonkani, chargée d'implémenter et encadrer, suivre l'évaluation des AVEC, les associations de valorisation de l'entraide communautaire, a fait le 11 octobre dernier le bilan à mi-parcours sur les avancées de ses assises, de ses caisses d'épargne et de crédit. Les détails avec Jérôme Kouassi, notre correspondant régional.
Les membres composés d'hommes, de femmes et de jeunes se cotisent une fois par semaine un montant consensuel de base. Le mode de fonctionnement des AVEC pour une entraide mutuelle. Constant Alfred Lobé, le chef du bureau.
Et c'est dans cette somme d'argent-là que chaque membre va venir prendre un prêt pour s'autofinancer. C'est pas nous qui donnons l'argent. Ils font un taux de remboursement. Tout ça, c'est eux encore qui décident combien ils comptent rembourser cette somme.
Le projet initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique visait à l'origine l'implantation de 20 AVEC. Mais l'ONG est passée au double au vu de l'engouement suscité au bilan jugé positif.
Sur les 43 AVEC qui sont mis en place, 24 441 par mobilisé. C'est plus de 11 millions qui ont été mobilisés. Ils ont à ce jour 4 millions qui ont été sortis pour aider les organisations.
Pour plus d'efficacité sur le terrain, un plaidoyer a été fait auprès des collectivités territoriales par Constant Wilfried Lobé, chef de bureau de l'ONG GFM3 de Bouna, chargé du projet AVEC.
Mais il y a encore des demandes, mais on n'a plus de fonds. Donc nous plaidons, nous. On a déjà échangé avec le conseil régional, la mairie, voir comment ils peuvent participer à financer ces groupes spontanés-là. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde dans un village donné.
À la fin du projet, les membres des AVEC forgés à l'esprit de la culture de l'épargne et de l'entrepreneuriat seront mis en lien dans le système des banques classiques avec l'appui de l'agence Emploi Jeune. De Bouna, Jérôme Kouassi Krou, Radio de la Paix.
Et parlons de lutte contre le phénomène de la drogue appelé Kadhafi en Côte d'Ivoire. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire a décidé de sensibiliser. Touré Adama a annoncé le 12 octobre dernier prendre son bâton de pèlerin pour investir les gares routières dans cette lutte. Des tournées, des opérations de démantèlement et des saisies de cette drogue sont prévues au mois de novembre 2023 dans les gares routières des communes d'Adjamé et d'Abobo. Écoutons Touré Adama à cet effet.
Un fléau qui est en train d'endeuiller beaucoup de nos apprentis et conducteurs routiers et endeuiller aussi la population. Ce nouveau phénomène est une réalité et nous sommes vraiment impuissants. Heureusement que la police nationale a décidé de nous accompagner dans cette sensibilisation et de ce démantèlement des ventes parce que c'est devenu maintenant des overdoses qui tuent des gens devant nous, des chauffeurs qui se mettent dans cet état de Kadhafi et qui vont faire des accidents inexplicables et endeuiller les familles. Nous avons vu la police venir, mais nous n'avons pas encore vu le gouvernement prendre vraiment des résolutions fermes. Parce que jusqu'à présent, on va à compte courant. Quand on nous dit qu'il est interdit de vendre les vaudis, après on voit un autre communiqué qui dit non, la boisson vaudis n'est pas interdite. Pourtant, c'est elle qui est la base de ce médicament Kadhafi là, parce que c'est le mélange de tramol avec du vaudis qui donne le médicament Kadhafi, qui sont dans les gares routières et qui font ces choses-là pour tuer nos jeunes gens.
Alors, qu'entendez-vous par résolution ferme que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre?
On doit interdire et donner des holas à la gendarmerie, à la douane et à la police, parce que ces substances-là viennent par la route et rentrent en Côte d'Ivoire par le corridor nord. On connaît même les lieux. Il ne se passe de semaine aujourd'hui tant que des camions sont arraisonnés avec des tonnes, des milliers de comprimés tramol et tramadol.
Alors au niveau d'Abidjan, quelle est la commune la plus touchée?
Adjamé, et il y a 3 millions de visiteurs par jour. Et tout le monde sait que le plus grand marché de médicaments prohibés, c'est Adjamé, à Eroxy. C'est vrai qu'à Bobo et Yopougon sont des communes où les gens utilisent beaucoup. On vient de découvrir aussi que sur l'université de Cocody, les jeunes ont commencé à consommer ça. Là.
Nous écoutions le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, qui a été joint par Paul-Bénédicte Bolou. Dans la sous-région, 6 soldats et 31 terroristes ont été tués dans des combats dimanche et lundi dans la zone de Tera, dans l'ouest du Niger, près de la frontière du Burkina Faso, a indiqué ce mardi le ministère nigérien de la Défense. Dans le détail, du dimanche 15 au lundi 16 octobre, les forces de défense et de sécurité de l'opération NIA en mission de ratissage ont eu une série d'accrochages avec des éléments terroristes dans la zone de Lindou, à 50 km au nord-ouest de Tera, explique le ministère dans un communiqué transmis au site d'information AFP. Et puis en Côte d'Ivoire, parlons sport, football, retrouvailles entre Ivoiriens et Sud-Africains au stade Félix Houphouët-Boigny, 21 ans après. C'est ce mardi 17 octobre 2023, à partir de 19h en temps universel. L'analyse de cette rencontre avec vous, César Yao.
Pour son second match amical de préparation de ce mois d'octobre, la Côte d'Ivoire va en découdre avec l'Afrique du Sud, un autre pays de bon calibre pour un petit duel de qualité aujourd'hui mardi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une rencontre sur cette même pelouse qui intervient 21 ans après celle des éliminatoires de la CAN 2004. Au total, les éléphants et les Bafana Bafana se sont croisés à 6 reprises, dont 2 en phase finale de CAN et 2 autres en éliminatoire du mondial, les seuls d'ailleurs à ce jour, et 2 en matchs amicaux. La seule rencontre officielle entre Ivoiriens et Sud-Africains au stade Félix Houphouët-Boigny date du 8 mars 2002. Et ce jour-là, les deux formations se sont quittées sur un nul blanc 0-0 avant que les Sud-Africains ne prennent le meilleur sur les Ivoiriens 2-1 au match retour. En 4 oppositions officielles, chaque formation a obtenu une victoire et une défaite pour 2 nuls. Mais ce sera le 3e match amical entre les deux nations. Après un décevant match nul contre l'Eswatine le 13 octobre dernier, 0-0, les Bafana Bafana, pour qui ce match fait office de repérage des lieux, espèrent cette fois faire un résultat beaucoup plus probant face aux éléphants de Côte d'Ivoire, régaillardis par une belle performance samedi soir face au Maroc, demi-finaliste du dernier mondial au Qatar.
Merci à vous, César Yao. Rendez-vous est pris pour ce mardi 19h sur les antennes de Radio de la Paix. L'invité de la rédaction est aujourd'hui professeur Bamba, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il évoque la situation au Proche-Orient, notamment la reprise depuis plus d'une semaine des affrontements entre Israël et le Hamas. Professeur Bamba Aboulaye répond aux questions de Marthe Kakou.
Professeur Bamba Aboulaye, bonjour.
Bonjour, Marthe Kakou.
Le Hamas, organisation militaire et islamique palestinienne, a lancé une offensive contre Israël. Alors, comment analysez-vous ce fait, ce comportement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit ravivé au Proche-Orient?
C'est une accumulation de faits, c'est une accumulation d'événements, c'est une accumulation de situations que vivent les Palestiniens, que vivent également les Israéliens. C'est aussi même la nature des rapports qu'ils entretiennent depuis des années, des relations très tendues. La question de la colonisation était une question fâcheuse entre Palestiniens et Israéliens. Les conditions de vie des populations palestiniennes, les représailles au quotidien d'Israël sont autant d'éléments qui expliquent cette relation très tendue. À court terme, il faut juste comprendre dans un premier temps le contexte dans lequel vit la population palestinienne à Gaza. On parle très souvent d'une prison à ciel ouvert où tout est contrôlé par Israël avec une forte dose de colonisation des territoires, ce qui crée naturellement des sentiments de frustration, de révolte. Et donc, vous avez une résistance qui apparaît à travers le Hamas. Et cette résistance se traduit par cet acte de violence que je condamne d'ailleurs de quelques endroits d'où que ça vienne. L'acte du Hamas traduit la nature des rapports que les Arabes palestiniens ont avec l'État juif.
Parlant de rapports, il y a eu un moment d'accalmie, mais pourquoi le Hamas a-t-il choisi la date du 7 octobre pour attaquer Israël? Y a-t-il une explication à cela?
Oui, historiquement, nous sommes pratiquement à 50 ans après les premiers affrontements entre Israël et Palestiniens. Je vais parler de la guerre de 73. Mais il y a aussi surtout un contexte qui est beaucoup plus proche. Depuis quelques mois, on a senti un rapprochement entre Israël et quelques pays arabes musulmans. On a vu le cas avec le Maroc, on a vu le cas avec l'Égypte. Et ce qui s'est dessiné à l'horizon, c'était également le rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Toute chose qui, naturellement, du point de vue de la branche radicale ou des radicaux, n'est pas vue d'un bon oeil. Et donc, on le constate que depuis ces affrontements ont commencé, il y a une opinion arabe qui est de plus en plus en veille et qui observe l'attitude de leurs gouvernants. Et tout va dépendre donc de cette attitude et de l'évolution du conflit entre Israël et Hamas.
À ce stade de la guerre, de ce conflit, quelles pourraient être les conséquences diplomatiques et économiques? dans les relations entre Israël et la Palestine.
Le plan économique, c'est d'abord une situation difficile pour les populations de la bande de Gaza qui sont encerclées par l'armée israélienne et qui vivent au gré des humeurs des autorités israéliennes qui peuvent couper le courant ou l'eau quand elles veulent. Mais en même temps, ça va encore rendre les relations beaucoup plus difficiles sur le plan politique. Les différentes étapes ou les différentes phases de perspective de dialogue politique qui s'est profilé à l'horizon vont être remis en cause. Mais au-delà d'Israël, il y a aussi les pays arabes qui vont être soumis à une forte pression de la part de leur opinion nationale. Et cela va naturellement avoir une répercussion dans leurs relations avec Israël.
Alors, professeur Bamba Abdoulaye, quelles pourraient être éventuellement les solutions de sortie de cette autre crise au Proche-Orient?
Dans un premier temps, il faut que l'ONU joue son rôle. Il faut que les puissances occidentales qui ont donné le feu vert à Israël se défendent et essaient de ramener Israël à la raison. Parce qu'il y a quand même une riposte que j'estime disproportionnée, pas que je justifie la causée par le Hamas. Et il faut que la communauté internationale, les alliés d'Israël, puissent exercer une certaine forme de pression pour réduire les bombardements et peut-être chercher d'autres voies de représailles, mais sans vraiment tout détruire de façon azimut. La deuxième option peut venir également à l'intérieur même d'Israël, des populations qui peut-être ne veulent pas de cette guerre. C'est vrai qu'ils ont été choqués par la violence du Hamas, qui pourrait peut-être demander à ce que les autorités puissent engager une fenêtre d'analyse ou une négociation afin de pouvoir récupérer les otages qui sont entre les mains du Hamas, qui pourrait donc servir de vecteur de paix et de négociation entre les deux entités. En tout état de cause, il faut se retrouver autour de la table de négociation parce que les conséquences du part et d'autre sont vraiment, vraiment désastreuses et c'est pas bon pour la sous-région et l'image même de l'humanité. Moi, j'ai toujours été pour la création de deux États, tout simplement, dans une relation de coexistence pacifique, qui allait s'accepter mutuellement et qui allait coopérer au grand bonheur des populations. Vous savez, depuis la création d'Israël et depuis cette question de la Palestine, les populations vivent toujours dans un stress permanent et c'est toujours des morts d'hommes. Il ne faut pas aussi oublier que la colonisation, c'est un lourd tribut que la population palestinienne paye. Tout ça doit pouvoir faire l'objet de négociations, que chacun mette un peu d'eau dans son vin, comme le dit en Côte d'Ivoire, surtout autour d'une table de négociation. C'est vrai que quand je le dis, ça a l'air très facile, mais ce que je dis, c'est qu'il faut au moins commencer, et surtout ne pas écouter les radicaux des deux côtés, parce que c'est les radicaux, généralement, qui remettent tout processus de négociation qui commence.
Professeur Bamba Abdoulaye, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
À l'instant, professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il était l'invité de la rédaction et répondait aux questions de Marthe Kakou. Un entretien qui met fin à notre édition dont voici le rappel des titres. Dialogue, paix, sécurité, la Fondation Frédéric Herbert envisage des solutions à travers un atelier tenu récemment à Ferkessé-Dougou. Et puis à Bouna, l'ONG Génération Femmes du Troisième Millénaire, chargée d'implémenter le projet des AVEC dans la région depuis 2022, fait il y a peu un bilan à mi-parcours. Nous avons eu les détails avec notre correspondant régional dans le Bounkani, Jérôme Kouassi. Dans l'actualité, hors de nos frontières au Niger, 6 soldats ont été tués dans des combats avec des terroristes près de la frontière burkinabé. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse pilotée aujourd'hui par Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. La nomination du Premier ministre.